Vous écoutez On lit pour vous.
Vous avez beaucoup de grains de beauté? Cette étude révèle pourquoi il faut les surveiller. Un texte de Christelle Cherrier, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science. Chaque été, les dermatologues rappellent l'importance de protéger sa peau du soleil. Mais une vaste étude génétique menée par des chercheurs australiens montre que le risque de mélanome ne dépend pas seulement des UV. La canicule s'installe, les plages se remplissent et beaucoup d'entre nous passent davantage de temps en extérieur. Chaque été, les messages de prévention sur les coups de soleil reviennent en force. Pourtant, une nouvelle étude suggère que l'histoire du mélanome, la forme la plus agressive du cancer de la peau, ne se résume pas seulement aux coups de soleil. Dans une étude publiée dans la revue Nature Communication, des chercheurs du QIMR, Berghofer Medical Research Institute, ont analysé les données génétiques de plus de 85 000 personnes et identifié des centaines de gènes impliqués dans la formation des grains de beauté et dans le risque de mélanome. Une découverte qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de prévention et à de futurs traitements. Pourquoi certaines personnes ont-elles beaucoup plus de grains de beauté? Les scientifiques savent depuis longtemps que le nombre de grains de beauté constitue l'un des principaux facteurs de risque du mélanome. Environ un tiers de ces cancers se développent d'ailleurs à partir d'un grain de beauté existant. Mais pourquoi certaines personnes en ont-elles des dizaines, voire des centaines, alors que d'autres en possèdent très peu? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont réalisé la plus vaste étude génétique jamais menée sur ce sujet. Résultat, 24 nouvelles régions du génome impliquées dans le nombre de grains de beauté ont été identifiées, soit 5 fois plus que lors de leur précédente étude, publiée en 2018 dans Nature Communications. Au total, plus de 250 gènes apparaissent désormais comme des candidats prioritaires pour comprendre la biologie du mélanome. Une partie du risque pourrait venir du système immunitaire. L'un des résultats les plus surprenants concerne un gène baptisé SIKE1. Contrairement à de nombreux gènes déjà connus, liés à la couleur de la peau ou à la pigmentation, celui-ci intervient dans la réponse immunitaire en aidant le système immunitaire à réagir aux infections virales. Les chercheurs pensent qu'en cas de dysfonctionnement, SIKE1 pourrait empêcher l'organisme de repérer et d'éliminer les mélanocytes qui commencent à se multiplier anormalement. Les immunothérapies actuelles sont inefficaces chez la moitié des patients atteints d'un mélanome à un stade avancé. Il est donc nécessaire de trouver d'autres moyens de cibler la maladie. L'étude des grains de beauté nous permet d'en apprendre davantage sur la biologie du mélanome et ainsi de découvrir de nouvelles façons de le contrôler, explique le professeur agrégé Matthew Law, responsable de l'équipe du laboratoire de génétique et de cancer de la peau du QIMR Berghofer. Le soleil reste un facteur majeur, mais il n'explique pas tout. Cette étude ne remet évidemment pas en cause l'importance de la protection solaire. Les rayons UV demeurent l'un des principaux facteurs environnementaux impliqués dans le mélanome. Mais elle montre que certaines personnes pourraient être génétiquement plus vulnérables que d'autres. Les chercheurs ont même élaboré un score de risque polygénique, PRS, capable d'estimer la prédisposition génétique à développer un grand nombre de grains de beauté. Notre étude contribue à mieux comprendre pourquoi certaines personnes ont de nombreux grains de beauté et pourquoi d'autres développent un mélanome, afin de mieux prévenir et traiter ce cancer, souligne l'auteur principal Shanika Jeyasinghe. À l'avenir, des tests génétiques pourraient compléter l'examen de la peau pour repérer les personnes nécessitant une surveillance renforcée. En attendant, le message reste simple. Si un grain de beauté apparaît, grossit ou change d'aspect, mieux vaut le faire examiner. Car même si la génétique joue un rôle important, la détection précoce demeure l'un des meilleurs moyens d'améliorer les chances de guérison. C'était « Vous avez beaucoup de grains de beauté, cette étude révèle pourquoi il faut les surveiller », un texte de Christelle Cherrier, paru le 23 juin 2026 dans Futura Science.
Les ex-fumeurs qui vapotent augmentent le risque de cancer du poumon, montre une étude, un texte de la presse canadienne paru le 19 juin 2026 dans Ici Radio-Canada. Vapoter après avoir cessé de fumer semble augmenter radicalement le risque de cancer du poumon, selon une étude publiée par des chercheurs sud-coréens dans la revue Nature Medicine. Pour le groupe à haut risque, le passage à la cigarette électronique était associé à un risque accru de 91% de développer un cancer du poumon et à un risque accru de 92% de décès liés à cette maladie par rapport aux personnes ayant complètement arrêté de fumer. C'est sûr qu'on avait toujours ces inquiétudes-là, que la cigarette électronique n'est pas une solution au tabagisme, a dit la docteure Nicole Ezer, une spécialiste du cancer du poumon au Centre universitaire de santé McGill. Mais c'est la première fois qu'on a des données populationnelles qui nous indiquent qu'effectivement, ce n'est pas une solution au tabagisme. Une citation de Nicole Ezer, spécialiste du cancer du poumon au Centre universitaire de santé McGill. Les auteurs de la nouvelle étude ont analysé les données de santé de plus de 4,5 millions de personnes en Corée du Sud afin de déterminer si l'utilisation de cigarettes électroniques après avoir arrêté de fumer était associée à un risque accru de cancer du poumon et de décès liés à cette maladie. Conclusion : les ex-fumeurs qui adoptaient le vapotage augmentait de 56% le risque de cancer du poumon et était deux fois plus susceptible d'en mourir. Parmi les sujets qui avaient cessé de fumer depuis au moins 5 ans, les chercheurs ont mesuré un risque de cancer plus élevé chez ceux qui s'étaient tournés vers le vapotage que chez ceux qui avaient tout arrêté. Une situation similaire a été constatée parmi les sujets qui avaient cessé de fumer depuis moins longtemps. En revanche, a dit la docteure Ezer, l'étude nous démontre que le bénéfice de l'arrêt tabagique est vraiment réel. Et les ex-fumeurs sans vapotage ont 44% moins de risque de décès par cancer du poumon que les fumeurs actifs. Le bénéfice est compromis lorsque la cigarette électronique est introduite, a-t-elle ajouté. Loin d'être inoffensive. Contrairement à l'image qu'on peut s'en faire, les vapoteuses ne sont pas inoffensives et peuvent exposer l'utilisateur à des substances cancérogènes comme le formaldéhyde ou à des métaux lourds comme le chrome, le nickel et le plomb, a rappelé la docteure Ezer. Conséquemment, même si la nouvelle étude n'établit aucun lien de causalité, ces résultats suggèrent que la consommation de cigarettes électroniques après avoir arrêté de fumer pourrait réduire les bienfaits d'un sevrage complet en matière de prévention du cancer du poumon, écrivent les auteurs. « C'est toujours une insulte qui continue au poumon », a dit la docteure Ezer. « Le poumon ne peut pas se guérir. Et on sait que cette insulte continuelle est vraiment problématique et permet à des mutations de créer des cellules cancéreuses. Donc, il faut vraiment arrêter l'irritation continue. Les ex-fumeurs, qui ont besoin du geste associé au tabagisme, devraient plutôt se tourner vers les inhalateurs de nicotine disponibles sur prescription, a estimé la docteure Heiser. Quand les gens sont en cessation tabagique, je vais leur expliquer. Écoutez, si c'est le geste qui est important pour vous, il y a une option qu'on sait qui est sécuritaire. C'est juste qu'il n'y a pas de marketing sur ce type d'inhalateur de nicotine, a-t-elle dit. C'était « Les ex-fumeurs qui vapotent augmentent leur risque de cancer du poumon », montre une étude, un texte de La Presse canadienne, paru le 19 juin 2026, dans Ici Radio-Canada.
Stimuler la recherche sur les maladies infectieuses pour protéger les plus vulnérables. Un texte de Catherine Couturier paru le 30 mars 2026 dans Université de Montréal, Nouvelle. Les maladies infectieuses posent de grands défis aux équipes de recherche. Un don combiné d'Intact et des familles Brin d'Amour et Gagnon de 5 millions de dollars aidera à les relever. Causés par des micro-organismes pathogènes, virus, bactéries, parasites, champignons, les maladies infectieuses affectent des milliards de personnes chaque année dans le monde. Leur prévention et la recherche de traitements sont primordiales car elles réduisent l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, en plus de comporter des risques de complications et de malformations pour le fœtus. Et il n'y a aucun répit en vue alors que les changements climatiques favorisent la montée d'autres maladies infectieuses comme la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental. On les voit, les effets des changements climatiques, et en tant qu'assureur, on les prend en compte. On veut aider celles et ceux qui seront les plus touchés, affirme Louis Gagnon, chef de la direction d'Intact au Canada. Concrètement, le don de 5 millions de dollars a permis d'appuyer la création du Centre d'excellence pour les maladies infectieuses. Cette unité unique au Canada rassemble des chercheurs et chercheuses de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal qui travaillent à l'Institut Courtois en innovation biomédicale ou au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine, qui contribue à la lutte contre les maladies infectieuses et à la préparation en vue des prochaines pandémies. Des astres qui s'alignent. C'est en 2023 que le recteur Daniel Jutras sollicite Louis Gagnon pour qu'il co-préside la campagne de financement de l'Université de Montréal. J'ai accepté parce que je crois que l'université est un lieu de réflexion important pour résoudre les problèmes complexes, estime-t-il. Un premier don personnel conduira à la mise sur pied du cours Horizon, qui propose l'étude d'enjeux de société par une approche collaborative et interdisciplinaire. Au même moment, et complètement par hasard, Charles Brin d'Amour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, devenait co-président de la campagne de financement de la Fondation CHU Sainte-Justine, l'un des centres hospitaliers affiliés à l'Université de Montréal. L'occasion était parfaite pour solidifier les liens entre les deux établissements. En effet, si les chercheurs de part et d'autre collaborent régulièrement, le maillage entre deux grandes campagnes philanthropiques est plutôt rare. C'est donc grâce à la force combinée des équipes de philanthropie de la Fondation CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal que l'initiative Intact pour la résilience en santé a vu le jour. Nous voulions faire un don qui rejoigne les valeurs d'Intact, notamment le soutien aux communautés vulnérables. Au sortir de la COVID-19, le projet de centre d'excellence qu'on nous a présenté était tout avisé, relate Louis Gagnon. Réunir différentes expertises et perspectives. Octobre 2020. Alors que le monde entier est plongé dans la pandémie de COVID-19, l'idée de mettre sur pied un centre consacré à la lutte contre les maladies infectieuses et à leur prévention prend forme à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. La pandémie a mis en lumière l'importance d'être prêt à répondre aux maladies infectieuses, autant par leur prévention qu'avec de nouveaux traitements, qui sont les deux faces d'une même médaille, déclare Yves Brun, professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut Courtois en innovation biomédicale, dont les travaux fondamentaux porte sur la découverte de nouveaux antibiotiques. Notre objectif était de rallier nos forces et de créer un continuum de la recherche fondamentale à la recherche clinique et vice-versa de façon à collaborer pour prévenir et surveiller la prochaine pandémie, puis pour mettre au point des traitements. Renchérit Ekat Kritikou, vice-doyenne à la recherche à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Le centre met en présence des expertises et des perspectives différentes, une diversité d'approches comme de disciplines. Ensemble, on fait germer les idées, croit Yves Brun. Ainsi, son équipe a accès aux souches bactériennes du CHU Sainte-Justine et vise à élaborer et à tester de nouveaux antibiotiques. Ce lien privilégié permet que la recherche réponde directement aux besoins du terrain. Le centre s'intéressera tout particulièrement aux populations vulnérables, dont les femmes enceintes et les enfants. Les équipes de recherche ont souvent peur de recruter les femmes enceintes pour leurs travaux et ce sont les dernières à avoir un accès au traitement, soulève la docteure Fatima Kakar, professeure de clinique au département de pédiatrie et chercheuse au CHU Sainte-Justine. Et pourtant, les maladies infectieuses peuvent avoir de graves effets sur leur santé et celle de leur bébé, comme elle le rappelle. Ces populations vulnérables ont vraiment souffert pendant la pandémie. Louis Gagnon, un engagement de longue date. Diplômé en économie de l'Université de Montréal, Louis Gagnon n'en était pas à son premier engagement ni à son premier don. Après une carrière dans le milieu bancaire, puis comme courtier d'assurance, il fait son entrée chez Intact en 2007 et prendra la présidence des opérations canadiennes en 2018. Il y rencontre alors l'ancienne chancelière de l'Université de Montréal, Louise Roy, qui siégeait au conseil d'administration d'Intact Assurance. C'est ainsi que Louis Gagnon renoue avec le milieu de l'éducation qui a toujours été très important pour sa famille. Son père était directeur d'école, trois de ses sœurs enseignaient et deux d'entre elles ont suivi les traces du paternel dans la direction d'établissements scolaires. Changer des vies par la prévention. Au CHU Sainte-Justine, la docteure Caroline Quash-Tan, nommée directrice nationale de santé publique du Québec en septembre, et son équipe voulaient être mieux préparées à la prochaine pandémie. C'est ce qui a motivé la création de la plateforme Popcorn en 2022. Rendue possible grâce à des financements des Instituts de recherche en santé du Canada et du Fonds de recherche biomédicale du Canada. La plateforme met en lien 16 hôpitaux pédiatriques pour faciliter la recherche clinique auprès des femmes enceintes et des enfants. Les principaux freins sont administratifs. Popcorn facilite la mise en place d'études cliniques de façon efficace, avance la docteure Quash-Tan. Le don combiné d'Intact et des familles Gagnon et Brin d'Amour a permis à la plateforme Popcorn d'embaucher une directrice des opérations, ce qui assurera la fluidité et l'efficacité optimale de la gestion quotidienne de ses activités. Une grande partie de la somme financera par ailleurs les études des docteurs Kakar et Soren Gant, pédiatres et chercheurs cliniciens, qui, avec la docteure Isabelle Bouquaran, obstétricienne, travaille à la prévention des infections transmissibles de la mère à l'enfant et à l'optimisation du diagnostic et du traitement des enfants infectés. Le don aide à mettre en route des projets de recherche et cliniques, des étapes préliminaires qui sont rarement financées par des fonds traditionnels, note la docteure Kakar. Dans leur mire, le cytomégalovirus, CMV, un virus très courant et normalement bénin, mais qui peut entraîner de lourdes conséquences pour le fœtus. Le CMV concerne une naissance sur 200, mais il n'est pas dépisté au Québec, dit la docteure Kakar. Une infection au CMV en début de grossesse peut causer des malformations, la surdité ou des retards de croissance chez les bébés. Il existe des traitements, mais encore faut-il qu'on détecte le virus. Ce ne sont pas tous les nouveau-nés qui présentent des symptômes à la naissance, ce qui fait que seuls les cas graves sont diagnostiqués. Mais la docteure Kakar est convaincue, si l'on mettait en place des tests systématiques, ça changerait la vie de plusieurs enfants. Grâce au don qui soutiendra des projets de dépistage du CMV chez les nouveau-nés québécois, l'équipe a recruté une infirmière de recherche et un épidémiologiste. L'infirmière de recherche au CHU Sainte-Justine peut solliciter les patientes pour les intégrer au projet de recherche dès leur première visite. L'épidémiologiste analysera ensuite les coûts et l'efficacité de cette intervention. La priorité est au CMV, mais nous serions prêts à nous pencher sur d'autres virus émergents, remarque la docteure Kakar. C'était stimuler la recherche sur les maladies infectieuses pour protéger les plus vulnérables. Un texte de Catherine Couturier, paru le 30 mars 2026 dans Université de Montréal Nouvelle.
$50 millions pour tenter de contenir la crise à Montréal. Un texte de Henri Ouellette-Vézina, paru le 27 mai 2026 dans La Presse. Montréal veut limiter l'explosion de l'itinérance à l'approche de l'été, au moment où le campement Notre-Dame atteint une centaine de tentes, un sommet. Environ 50 des 120 millions promis dans le présent mandat seront transférés aux arrondissements et aux réseaux communautaires dans les deux prochaines années. C'est du jamais vu au niveau de la ville. La réalité de l'itinérance évolue rapidement et les besoins augmentent. Les campements se multiplient, les citoyens nous interpellent et les équipes sont à bout de souffle, a fait valoir mercredi la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Les sommes annoncées proviennent directement du budget de la ville. En campagne, le parti de Soraya Martinez-Ferrada avait promis la disparition des campements d'ici 2029, en s'engageant au passage à investir 120 millions dans la lutte contre l'itinérance d'ici 2029. Dans les deux prochaines années, la ville enverra donc plus de 20 millions de dollars aux arrondissements, soit 9 millions en 2026 et 11 millions en 2027, pour lutter contre l'itinérance de façon locale. Le tout se fera par l'entremise d'un nouveau programme d'intervention en itinérance et cohabitation sociale, PIICS, dont l'objectif sera d'améliorer la livraison de certains services dans des bâtiments municipaux, centres sportifs ou bibliothèques, en installant, par exemple, des équipements sanitaires de base. Une cellule de crise portant spécifiquement sur les campements sera aussi mise sur pied. La cohabitation sociale est fragile et actuellement, dans plusieurs secteurs, elle est quasiment inexistante. On ne peut plus détourner le regard, a insisté la mairesse, ne cachant pas ses inquiétudes à l'approche du 1er juillet, quand plusieurs locataires supplémentaires pourraient être évincés de leur logement. Un financement ponctuel et récurrent ira plus particulièrement à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour nettoyer et ramasser les déchets autour du campement de la rue Notre-Dame. Celui-ci déborde plus que jamais. Environ 150 personnes occupent la centaine de tentes sur les lieux, un sommet. Trois cols bleus seront présents 7 jours sur 7 à partir de maintenant dans le secteur, et ce jusqu'au 31 octobre. Un projet pilote sera aussi mené avec le CIUSS de l'Est pour gérer l'encombrement excessif d'objets. Plusieurs organismes communautaires de première ligne auprès des sans-abri se partageront quant à eux une somme supplémentaire d'environ 29 millions, soit 13 millions cette année et 16 millions l'an prochain. Madame Martinez-Ferrada espère que ces mesures permettront de mieux mettre en application son protocole des campements adopté au début mai. Depuis, les arrondissements doivent désigner des « zones de tolérance » où les campeurs seront redirigés si leurs installations ne respectent pas certaines règles de sécurité. S'ils passent ce test, les campements pourront dorénavant être dotés d'installations sanitaires et nettoyés périodiquement par la ville. L'objectif, c'est d'éviter les zones grises, donc d'avoir des balises très claires qui vont structurer et encadrer les différentes actions sur le terrain, a évoqué le président du comité exécutif, Claude Pinard. On les tolère, les campements, mais pas partout. À côté d'un skatepark où il y a des enfants, ce n'est pas tolérable, a ajouté la mairesse, en référence au campement situé sous le viaduc Van Horn, sur le plateau Mont-Royal. La ville veut le démanteler, mais la cour empêche jusqu'ici toute opération jusqu'au 1er juin. À l'Anonyme, un organisme qui gère une roulotte près du campement Notre-Dame pour que les itinérants puissent s'y réchauffer, le directeur général Julien Montreuil prévient d'emblée que ces investissements ne seront pas suffisants sans une aide supplémentaire de Québec et d'Ottawa. Honnêtement, on n'avait pas anticipé une aussi grande population sur Notre-Dame. On a mal évalué la situation, soutient-il en entrevue. La limite, à un moment donné, elle va être atteinte. J'aime quasiment mieux ne pas trop penser au 1er juillet pour le moment. On a des gens qui viennent nous voir à la roulotte avec leurs valises, imaginez, parce qu'ils viennent de se faire évincer. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est un logement, un toit. En mêlée de presse, la mairesse a d'ailleurs lancé un message on ne peut plus clair au gouvernement Fréchette. Aux gens de Québec qui nous écoutent, ce n'est pas parce que Montréal met de l'argent qu'il faut que le gouvernement se retire. Moi, je m'attends à plus d'argent, a-t-elle martelé. Dans l'opposition à l'hôtel de ville, la chef de projet Montréal, Erika Alnius, réclame quant à elle plus de liquidités de la ville pour appliquer le protocole de campement. Seulement dans Verdun, ce sera 350 000 dollars pour appliquer ça. Ça va demander plus de ressources. Alors c'est quoi le plan de match? Sans ça, l'été va être tout un casse-tête, a-t-elle noté. C'était 50 millions pour tenter de contenir la crise à Montréal. Un texte de Henri Ouellette-Vézina, paru le 27 mai 2026 dans la presse.